France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes en Tunisie qui vote dimanche. La Tunisie qui reste un modèle démocratique aux yeux de ses voisins de Révolution arabe en tout cas, mais le chemin est chaotique. On parle aussi de populisme là-bas et on y vient dans un instant en longueur avec notre invité. Le bruit du monde est en Suède. Est-ce que c'est vraiment le modèle écologique qui marche aujourd'hui? Et puis Amélie Perrier nous parle entre autres de rappeurs un peu trop Poutine en Russie. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier ou comment Bruce Springsteen peut sauver une vie. 18h55, Jean-Marc Four ou comment Trump a viré Bolton. Mais voilà qui est cohérent, nous dira Jean-Marc, dans son monde à l'envers. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Asni Abidi.
Bonsoir.
Vous êtes politologue spécialiste du monde arabe. Vous dirigez le centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen qui est à Genève. 26 candidats à cette élection tunisienne. Deuxième élection d'un président donc après 2014 et après Benji Caïd Essebsi. Pardon, subitement j'avais oublié son nom, qui est mort cet été. 26 candidats, est-ce qu'on... Voyons la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Est-ce que c'est un signe finalement de bonne santé démocratique ou un vrai signe d'éparpillement terrible en fait?
Non, c'est un signe de santé démocratique parce que la commission a reçu plus de 100 candidatures. Mmh. Évidemment, elle a retenu que 26 candidats, mais ça montre que les Tunisiens renouent un peu avec la politique. Je trouve que c'est plutôt un bon signe.
Mais alors avec 10 candidats quand même du parti Nida Tounes sur lequel on reviendra d'ailleurs, qui était celui des Essebsi, qui est aussi celui du Premier ministre qui par ailleurs est aussi candidat, ça parle aussi de déliquescence. S'ils sont 10 à se présenter, dont la moitié ont créé un autre parti pour l'occasion en se dépêchant de le faire, ça parle de déliquescence ça quand même ou pas?
C'est tout de même la nouveauté de cette élection. Après le naufrage des élections municipales où il y avait un taux d'abstention très élevé, et du coup on a plutôt des candidats qui n'obéissent pas à leur parti politique, qui n'obéissent pas à la configuration partisane, mais plutôt des candidats presque autonomes c'est vrai, ont le soutien de leur parti politique, mais en fait ils veulent absolument se porter candidat. Regardez par exemple la mouvance islamiste, on a plus de 3 candidats qui sont proches. Vous avez un ancien Premier ministre, Hamad Ijbali, vous avez aussi le cofondateur du mouvement Anorda, Mourou, et vous avez parlé de Nida Tounes et d'autres partis politiques. Donc il y a plus de candidats que de partis politiques.
Alors on y viendra notamment à ce candidat-là parce qu'il est quand même important. Il y a, ce qui est assez fascinant, l'émergence aussi de candidats qu'on... On appelle ça, nous, des candidats hors système. D'abord, est-ce que c'est une manière un peu trop européenne de voir les choses à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui? Ou est-ce qu'en Tunisie aussi, on appelle ça réellement des candidats hors système? Est-ce qu'il y a une espèce de vague populiste aussi en Tunisie aujourd'hui?
Oui, absolument. La Tunisie est aussi touchée par cette vague de populisme. Et disons que les candidats, ils ont bien lu le résultat des dernières élections et se positionnent un petit peu dans une dynamique de rupture avec l'ancien système et avec surtout la discipline des Tunisiens après le printemps arabe et après la révolution tunisienne. Et le slogan aujourd'hui, nous voulons un État fort. Tous les candidats disent, même Madame Abir Moussa, qui vient d'ailleurs du régime de Ben Ali, dit, je veux un président fort, je veux être une présidente forte, c'est-à-dire une personnalité forte, c'est-à-dire une personnalité qui a tous les pouvoirs, en critiquant bien sûr ce système un peu hybride entre le Parlement et la présidence.
C'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui à la fois crée les frustrations des gens, mais qui dit aussi que cette transition démocratique est encore en pleine construction. C'est le modèle démocratique, le modèle institutionnel finalement qui n'est pas encore au point en Tunisie aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi qui rend les choses plus complexes?
C'est vrai qu'il n'est pas encore construit parce qu'il faut une tradition, il faut aussi une continuité dans le scrutin présidentiel, législatif, municipal pour arriver un peu à quelques réglages. On sait très bien aujourd'hui, il y a plusieurs amendements constitutionnels très importants. Le règlement, c'est des élections qui méritent d'être analysées. Mais je pense que les Tunisiens...
Sauf qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, si, il y a une cour.
Allez. Non, mais il n'y a pas une cour constitutionnelle. Monsieur Bajir Kaïd Essebsi n'avait pas eu le temps, en tout cas, de finir tout le travail. Et ce qui est attendu, à mon avis, c'est surtout d'arriver à une relation d'harmonie entre l'Assemblée, puisque les élections législatives, c'est aussi bientôt, et le nouveau titulaire du palais de Carthage.
Asni Abidi, on va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière sur cette espèce de moment populiste, en fait, qui peut aussi atteindre la Tunisie. Le candidat qui est le symbole de ça s'appelle Nabil Karoui, qui c'est ce Nabil Karoui? On le présente un peu comme le Berlusconi tunisien parce qu'il a une chaîne de télé, parce que c'est un madien de la pub. Qui c'est ce monsieur en fait?
Alors le chef de gouvernement sortant et qui est candidat sérieux, monsieur Youssef Chahed, c'est lui qui l'a appelé le Berlusconi tunisien parce qu'il a une chaîne de télévision. Il a osé quand même montrer et diffuser sur sa chaîne Nesma TV le film de Marjane Satrapi, Persepolis. Ça lui a valu les critiques de certains mouvements et certains partis politiques. Alors il sillonne la Tunisie en disant qu'il faut être proche des Tunisiens. Je suis l'homme qui va changer le système tunisien, proche des aspirations populaires, distribution presque de la soupe populaire pour tous les Tunisiens, disant qu'il a mis le citoyen au centre de ses intérêts. Mais il a été arrêté pour fraude fiscale.
Il est en prison depuis le mois d'août.
Absolument.
Mais pour l'instant, pas hors élection.
Il n'est pas hors élection, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas privé de ses droits civiques et donc il est toujours candidat.
Mais il y a une vraie chance, réellement, il y a une vraie écoute, il y a quelque chose qui se passe autour de ce personnage ou pas?
À croire les sondages tunisiens, il est quand même en tête des intentions.
C'est pour ça que je pose la question.
Des intentions de vote. Je pense que le premier tour, ça va faire le tri entre ces 26 candidatures. En revanche, le deuxième tour, ça va être, à mon avis, le tour le plus déterminant et le plus difficile un peu pour les Tunisiens.
Parce que je vous entends parler de Nabil Karoui, j'ai l'impression qu'il rase gratis en fait. Est-ce qu'il y a un vrai programme derrière? Et au fond, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'un de ces candidats a un vrai programme derrière réellement, quelque chose d'extrêmement concret, notamment pour la remise en place de l'économie, parce qu'on a bien compris que c'était là-dessus que les Tunisiens allaient voter.
Alors la Tunisie a organisé d'ailleurs un débat télévisé entre plusieurs candidats.
Ce qui était très inédit.
Absolument. Inédit dans le monde arabe, ou au Moyen-Orient, très important.
Avec une audience supérieure au débat Macron-Le Pen, paraît-il.
Voilà. Les Tunisiens, ils étaient devant leur poste. Mais c'est quand même une déception de la part des Tunisiens, parce qu'ils n'ont pas vu ce que vous dites, c'est-à-dire un débat de fond. Et vous savez, le populisme, sa force, c'est qu'il n'y a pas de programme. C'est-à-dire, si vous voulez être populiste, il ne faut pas avoir un programme. Comme ça, vous n'avez pas de promesses et vous ne serez pas comptable de ce que vous avez promis à la population. Nabil Karoui n'est pas le seul, évidemment, à surfer avec le populisme. D'autres partis politiques, les islamistes aussi, et aussi ceux qui sont partisans de l'ancien parti de M. Bajeket Sebsi.
Alors, il y a lui, donc, il y a Youssef Chahed, qui est l'ancien Premier ministre, effectivement, qui est aussi...
franco-tunisien.
Exactement, franco-tunisien, très haut placé, là, pour l'instant, qui a créé son propre parti, effectivement, pour rentrer dans cette course. Qui est le troisième homme, en fait, Abdelkarim Zdibi, c'est qui, ce monsieur qui peut, visiblement, tirer les marrons du feu?
Il a le soutien de l'armée, il vient de la région de Sahel. Le Sahel, c'est très important, parce que tous les chefs d'État de la Tunisie, ou disons l'élite un peu tunisienne, la politique économique qui vient de cette région prospère le Sahel. Et Abdelkrim Zbidi, un ancien d'ailleurs de l'ancien régime, ministre de la Défense, et il avait d'excellentes relations avec l'ancien président Bajeket Sebsi. L'armée, mais aussi certains des régions de l'Afrique du Nord, voient en lui un peu un gage de stabilité et de continuité.
Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond les Tunisiens aujourd'hui quand on les interroge dans la rue? La première chose qu'ils disent, c'est quoi?
D'abord, améliorer la situation économique. Le chômage est très élevé en Tunisie, le taux d'inflation est très élevé.
35% de chômage chez les jeunes, par exemple.
Et évidemment, le premier objectif, les Tunisiens, c'est la sécurité. On sait très bien que la Tunisie a fait face à des attentats terroristes qui ont coûté cher à l'économie tunisienne. Aujourd'hui, la priorité absolue des Tunisiens, c'est des nouvelles perspectives et surtout, à mon avis, la création d'emplois qui manque cruellement à la Tunisie.
Dette, inégalité territoriale, on lit beaucoup de choses comme ça aussi dans la presse tunisienne aujourd'hui.
Oui, entre les régions, ça c'est le drame de la Tunisie, entre les régions. Et on sait qu'en Tunisie, il y a un pouvoir très important des municipalités, de ce qu'on appelle les collectivités locales. Et en même temps, ces collectivités souffrent un petit peu de cette inégalité dans la distribution des richesses. Ce qui est très important, vous avez posé la question, c'est qu'aujourd'hui, cette élection, elle se déroule, c'est vrai, dans un climat un peu tendu, mais elle est très ouverte. Il y a une grande compétition. Et elle se déroule sans ce qu'on appelle les pères de la nation. Il n'y a plus Bourguiba, il n'y a plus Bajeket Sebsi. Donc c'est vraiment une nouvelle étape dans la construction de la démocratie.
Alors justement, en parlant de nouvelle étape, il y a aussi un homme dont je voudrais qu'on parle ensemble, qui s'appelle Abdel Fattah Mourou, pour les islamistes d'Ennahda. C'est la première fois, Ennahda a toujours été là, toujours été l'un des partis les plus populaires d'ailleurs, et toujours dans les coalitions depuis la révolution arabe. Sauf que cette fois, il y a un candidat. Pourquoi est-ce qu'Ennahda décide cette fois de poser un candidat pour cette élection présidentielle?
Alors, curieusement, monsieur Mourou... Il a été comme choisi par le Conseil de Choura, une majorité de conseils consultatifs qui est l'organe suprême de ce parti, alors que certains membres de parti de Nahdaa dissuadaient et demandaient à M. Ghannouchi de ne pas aller aux élections pour ne pas reproduire le même schéma que l'Égypte, par exemple, avec le président Morsi, ou ce qui s'est passé avec le mouvement Hamas en Palestine et dans d'autres régions. Mais Moro a insisté, il voulait absolument tenter sa chance en disant que lui, il est redevable au parti de Nahdaa, mais lui, Nahdaa, ça fait deux. Donc, il n'est pas le représentant de parti Nahdaa. La preuve, c'est que vous avez aussi M. Ahmad Ijbali, ancien Premier ministre de parti de Nahdaa, qui est aussi candidat au présidentiel. Est-ce qu'il a beaucoup de chance? Je pense qu'il va se positionner. Tout dépendra un petit peu du vote islamiste, qui est généralement un vote bloc, mais cette fois-ci, ce vote-là, on doit se départager entre plusieurs candidats.
Alors, ce qui est fascinant chez ce monsieur, au fond, c'est qu'il dit qu'il veut requalifier sa famille politique. Il veut qu'on enlève l'islamisme, y compris du nom du parti, qu'on appelle ça un parti conservateur, donc sans aucune référence religieuse. Est-ce qu'il y a une transformation doctrinale des Nahdaa, quelque chose de fondamental de ce type-là, ou est-ce que c'est purement électoraliste, là, pour l'instant?
Le chef de Nahdaa, qui est un homme politique, comme éclairé, Rachid Ghannouchi, a fait ce travail sur le plan théologique et sur le plan idéologique. C'est vrai que sur le plan pédagogique, c'est très intéressant, parce que finalement, il va continuer ce travail de domestication de l'offre islamiste, en disant que il ne s'agit pas d'une...
Domestication de l'offre islamiste, qu'est-ce que vous entendez par là?
Ça veut dire que finalement, nous avons des courants, des partis à référents islamistes, mais ils ne sont pas des partis religieux. Ils ont un programme qui est inspiré par l'islam, mais ce ne sont pas des partis religieux. Et ça, finalement, c'est important, parce que les Tunisiens, ou une bonne partie des Tunisiens, et d'ailleurs d'autres pays, rejettent un petit peu l'expérience islamiste. Et on sait qu'on a des mauvaises expériences avec les partis islamistes. On a vu en Algérie, mais aussi dans
bien
d'autres
sûr.
Pays.
Mais donc, on appelle ça comment? Il y a une sorte de normalisation? En Tunisie, surtout, ça a été perçu comment? À la fois à l'intérieur des Nahdaa, mais surtout à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent, les Tunisiens, quand ils voient ce changement de nom?
Alors d'abord, rassurer les Tunisiens, parce qu'il ne faut pas oublier que le parti Nahdaa est un parti très important. D'ailleurs, Bachir Kaïd Sebsi a tenu, grâce à cette alliance importante entre lui et Ghannouchi. Et l'élection présidentielle est très importante, parce que finalement, ça va être un test de cette alliance qui a fait la stabilité de la Tunisie, entre le parti Nida Tounous de Bachir Kaïd Sebsi, quand elle était importante, aujourd'hui malheureusement elle est éclatée, et la mouvance islamiste quand elle était unie. C'est plutôt la bonne guerre, parce que c'est important d'avoir des partis normaux, et des partis qui ont normalisé la relation avec les autres partis, avec le pouvoir, en quelque sorte des partis qui ne sont pas forts, pas des partis État.
Mais est-ce que c'est un vrai changement, une vraie nouvelle politique, ou c'est simplement une façade, effectivement, parce que vous le disiez, il y a une forme de crainte, et puis que historiquement, y compris avec les voisins égyptiens, ça s'est mal passé. Donc c'est un changement réel, ou simplement pour l'instant, une sorte de peinture, en fait?
Alors, ce n'est pas une peinture, mais votre question elle est importante, parce que finalement, on voit bien que les partis islamistes, et notamment à Nahdaa, se renouvellent, se démocratisent à l'épreuve, à l'exercice du pouvoir. Seul l'exercice du pouvoir peut finalement amener ces partis-là à accepter le jeu démocratique, l'alternance, à devenir en quelque sorte des partis comme les autres.
Un mot sur le vote des femmes. Beaucoup d'inscriptions sur les listes électorales sont des inscriptions féminines. Est-ce qu'elles peuvent faire bouger le scrutin ou pas?
Absolument. La société civile tunisienne est une des sociétés les plus importantes et les plus vives de la Tunisie. Ce qu'on regrette, c'est qu'il y a très peu de candidatures lors de ces
élections. Il y en a combien d'ailleurs des femmes sur les 26? Il y a celle que vous avez citée tout à l'heure. Dont
oui, alors moi j'ai vu parmi les ceux qui ont plus de chance, c'est Madame Abir Moussa, il y en a d'autres, mais en tout cas le nombre est très très insuffisant, mais on compte beaucoup sur les Tunisiennes, sur les Tunisiennes et les Tunisiens pour se mobiliser.
Mais
comme
est-ce qu'elles iront voter? S'inscrire, c'est une chose. Est-ce qu'elles iront réellement voter? Est-ce qu'elles ont aussi les moyens d'aller voter? On parlait de disparité territoriale tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut aussi se déplacer, ce qui n'est pas toujours simple. Est-ce qu'on sait qu'il y aura un vote réellement au féminin en Tunisie?
C'est très difficile de vous répondre. Les élections municipales étaient vraiment trop noires dans l'expérience démocratique tunisienne, et évidemment l'abstention ne profite que aux partis qui ont déjà un réservoir électoral très important, comme les islamistes, ou ceux qui sont proches du pouvoir, comme le parti de M. Youssef Chahed, ou aussi d'autres partis politiques.
Est-ce que la place des femmes, ça entre réellement dans la campagne électorale? On sait que l'égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes, c'est un inachevé pour l'instant en Tunisie. Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses dans les programmes qui visent directement l'égalité hommes-femmes?
Alors, contre ce qui a été accompli par le président Bachir Kaïd Sebsi, c'est difficile. Hein. Il a fait des progrès très importants en termes d'égalité, surtout l'héritage. Il sera très difficile à son successeur de revenir sur ses acquis. Je pense que les Tunisiens restent mobilisés sur la question des droits de la femme et des droits civils de manière générale.
Mais voyez, Jean-Marc Four qui vient d'entrer, qui a un téléphone à portée de main, me dit qu'il y a deux femmes candidates sur ces 26 candidats. Est-ce que vous diriez, ce sera le mot de conclusion, Asni Abidi, qu'en Tunisie, on fait toujours figure de modèle démocratique, réellement? Est-ce que la Tunisie se vit aussi, elle, toujours comme ça, ce premier pays qui a fait sa révolution et qui, au fond, est un exemple pour les autres. Est-ce qu'elle se vit comme ça?
C'est le seul pays qui est rescapé des secousses politiques et sécuritaires et économiques du printemps arabe.
Mais est-ce qu'elle se vit comme ça, la Tunisie? Est-ce qu'elle sent cette idée-là et peut-être donc, du coup, cette responsabilité démocratique?
Elle se vit comme ça, mais on n'a pas envie de dire trop parce que sinon, ça va être une pression sur les Tunisiens, même pour dire oui, il faut absolument réussir parce que le monde nous regarde, mais on essaie de donner plutôt une dimension locale à leur expérience.
Premier tour, ce dimanche, deuxième tour, on ne sait pas encore d'ailleurs. Un moment.
Alors, c'est un flottement parce que ça coïncide avec le premier tour des élections législatives et ça, c'est un grand cafouillage à régler un petit peu dans la boussole tunisienne.
Et ce sera l'occasion de venir nous en reparler. Hasni Abidi, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et la suite, dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde est en Suède et sa neutralité carbone pour 2045. Comment on sait contraindre les entreprises? Le bruit du monde quand il passe sous les radars, Amélie Perrier.
Au Cameroun, avec ce conflit, avec les séparatistes anglophones, on organise un grand débat.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, quand Springsteen peut sauver une vie.
Exactement, comment le réalisateur, le musicien inspire de nombreux réalisateurs, cette fois-ci la réalisatrice de Joula Cobb-Beckham.
Allez, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc.
Salutations, comme les basketteurs américains, le conseiller de Trump, John Bolton, rentre chez lui, tant mieux.
Vous n'êtes pas dans le même état. Vous n'êtes pas dans le même état d'euphorie. À tout de suite. En tout cas, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Grande-Bretagne. Tiens, avec Michael Kiwanuka. You ain't the problem. C'est pas toi le problème.
Makes you blind, I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong, if you don't belong, live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
Le bruit du monde est dans les rues de Stockholm ce soir en Suède et vous noterez derrière nous qu'on entend beaucoup de trams mais pas beaucoup de voitures. La Suède a toujours eu une encolure d'avance sur ces questions environnementales et vous avez peut-être vu qu'une loi a été entrée en vigueur en 2018 qui impose la neutralité carbone pour la Suède dès 2045 et qui donc contraint les entreprises et la société à une transition écologique. Voici comment ça marche, cette contrainte, mais surtout, est-ce que la Suède est vraiment le meilleur élève de la classe? On le voit grâce à vous, Frédéric Fou.
Vi strejkar för att vi vill ha en framtid och vi kommer fortsätta.
Greta Thunberg, lycéenne devenue égérie de la lutte contre le dérèglement climatique, est quelque peu décriée en France, mais pas en Suède. Dans ce pays, le souci d'économiser l'énergie et les ressources est déjà très ancien. Il est par exemple au cœur de Hammarby Röstad, un écoquartier de Stockholm qui a accueilli ses premiers habitants dès les années 2000. L'architecte Yves Chantereau a fait partie de cette aventure.
L'idée, c'était la réduction de l'empreinte environnementale de moitié. Ici, on a imposé une norme maximum. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 0,5 place de parking par appartement pour encourager d'autres modes de transport, non seulement tramway, mais aussi les premiers pools de voitures partagées. C'est d'une efficacité absolument incroyable puisque 25 voitures fournissent 700 foyers.
Quand ils font leurs poubelles, les habitants de Hammarby Röstad font un sac de déchets compostables et un autre avec ce qui peut être brûlé. Ils vident leurs poubelles par des trappes qui sont reliées à un terminal dans lequel nous emmène Yves Chantereau.
Ces fractions sont ramassées de façon pneumatique par un tuyau souterrain. Ici à Stockholm, c'est brûlé dans des centrales thermiques qui font de la cogénération, électricité et chauffage urbain. La partie qui est compostée est une partie intégrante de fabrication du biogaz. C'est toute cette synchronisation de petits gains énergétiques qui a commencé un mouvement. C'est pour ça qu'Hammarby Röstad est important.
Aujourd'hui, ces pratiques sont devenues majoritaires en Suède. Et la nouvelle loi environnementale, qui impose la neutralité carbone dès 2045, veut encore les étendre. Le biogaz, dont parlait Yves Chantereau, alimente ainsi les bus de Stockholm. Jean-Bernard Collin, de Scandinavian Biogaz, nous fait visiter ses installations de Södertörn, où arrivent chaque jour 200 tonnes de déchets ménagers.
Alors les digesteurs, vous voyez, sont de deux grandes cuves. C'est exactement la même chose qui se passe dans nos estomacs. C'est-à-dire que la matière organique va être digérée et on va avoir du méthane, du CO2 qui va être généré et l'ensemble forme le biogaz. Donc nous sommes ici à la station de ravitaillement. Je compte faire le plein de gaz en bloc.
L'un des éléments qui explique cette transition, c'est la fiscalité. La Suède a été l'un des premiers pays au monde à mettre en place une taxe carbone, qui a permis notamment de développer le transport ferroviaire. Une autre taxe vient aussi peser sur les billets d'avion. Des décisions qui ont favorisé ici l'émergence du Fluxcam, la honte de prendre l'avion, trop polluant. Andreas, un militant de Fluxcam, revient tout juste de ses vacances en train, passées à sillonner l'Europe de l'Est avec sa famille.
Soit on change notre comportement de fou, soit on continue à voler à travers le monde en brûlant tous nos combustibles fossiles en moins d'un siècle et le climat s'effondre. Ne plus prendre l'avion n'empêche pas de voyager à côté de chez soi. Rien qu'en Europe, vous avez tant de destinations. Il y a de quoi voyager toute sa vie.
En seulement un an, la fréquentation des vols intérieurs en Suède a déjà baissé de 10%. Mais pour arriver à la neutralité carbone, il faudra aller encore plus loin. La loi climat, qui a instauré cette date limite de 2045, a aussi créé un conseil de la politique climatique, formé de 8 experts indépendants. Et lors de la remise de son premier rapport en mars dernier, il a regretté que la trajectoire prise par la Suède ne soit pas si bonne que ça. Johan Kulsterna est le vice-président de ce conseil.
Le message principal, c'est que l'on avance trop lentement. Ces dernières années, en Suède, la réduction des émissions de CO2 est en dessous de 1% par an, alors que nous devrions être à 5 ou 7%. Ces objectifs climatiques doivent être pris en compte dans toutes les décisions liées au transport.
Il ne reste en effet qu'un peu plus d'une génération pour que les Suédois atteignent leur objectif de zéro émission en 2045.
Ils ne sont pas les seuls à être pressés. Frédéric Faux pour Un jour dans le monde en Suède. Merci beaucoup. le bruit du monde sous les radars. Ça donne aussi ce qu'on entend ici au Cameroun. Cameroun anglophone, Amélie Perrier, avec un grand débat. Tiens, ça nous dit quelque chose.
Ah oui, je ne parle pas de celui organisé en France ces derniers mois par Emmanuel Macron et le gouvernement, mais la méthode a plu en Afrique, apparemment au Cameroun en particulier. Donc, le président Paul Biya a fait cette annonce hier soir à la télévision et à la radio nationale.
J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation.
Alors, un dialogue national pour tenter de résoudre un conflit meurtrier dont on parle peu, la guerre entre les forces étatiques et les séparatistes de la minorité anglophone. Depuis 3 ans, les combats de part et d'autre ont fait plus de 2000 morts, selon Human Rights Watch, et plus de 500 000 personnes ont dû quitter leur domicile. On l'appelle aussi la guerre d'Ambazonie. C'est l'ancien Cameroun britannique, en fait, coincé entre le Nigeria anglophone et le Cameroun, ex-colonie française. Et face à la répression de Yaoundé, les séparatistes se sont radicalisés. La situation a dégénéré en conflit armé. Hier, le président Paul Biya a répété qu'il offrait le pardon aux sécessionnistes qui déposeraient volontairement les armes. Mais pour ceux qui refuseraient, toute la rigueur de la loi s'appliquera, promet-il. Une main tendue, alors que le chef de file des séparatistes anglophones, Julius Ayuk Tabe, vient d'être condamné à la prison à vie. Pas vraiment de quoi encourager le dialogue. D'ailleurs, il pose sa libération et celle des autres prisonniers politiques comme préalable au dialogue. Il y est ouvert.
Et si l'on venait à bout du paludisme grâce à des satellites?
Alors là, c'est l'idée de la NASA qui a débuté une expérimentation en Birmanie. L'agence spatiale américaine travaille avec des chercheurs de l'université du Maryland pour exploiter des données satellites. Écoutez Ben Zaitchik, lui, il est professeur en sciences à l'origine d'un projet similaire avec la NASA en Amazonie.
We know that malaria risk is associated with certain environmental conditions that we can detect.
Alors il dit, on sait que les risques de paludisme sont associés à des conditions environnementales que l'on peut détecter grâce aux satellites. Les moustiques ont besoin de pluie pour leur site de reproduction, des flaques d'eau et des étangs éphémères. Les pluies influencent aussi l'humidité du sol, c'est important pour la végétation. Ça modifie aussi l'humidité près des surfaces où les moustiques pondent et vivent. Les pluies s'écoulent également vers les rivières et un fort débit signifie davantage de sites de reproduction le long des rives de ces rivières. Voilà ce que nous dit ce scientifique. Alors le paludisme, appelé aussi malaria, est le parasite le plus meurtrier dans le monde. Des centaines de millions de malades sur la planète, des centaines de milliers de morts. Alors même si la maladie recule ces dernières années, même si la revue The Lancet affirme que le paludisme pourrait être éradiqué en l'espace d'une génération, certaines zones sont difficiles à traiter, comme la Birmanie. Où des régions restent difficiles d'accès, y compris pour les scientifiques, des zones interdites, théâtre de conflits entre l'armée et des groupes rebelles, des minorités persécutées par le pouvoir central.
Amélie, on termine avec du rap russe.
Une star, il s'appelle Timati, et il vient de retirer de YouTube le clip de sa chanson « Moskva ». Это жесткий город, своя шкала контрастов. Alors pourquoi Timati retire son titre? C'est pas un acte de censure du Kremlin, bien au contraire. Timati est connu pour son soutien à Vladimir Poutine, le président russe l'adore. Un soutien peut-être un peu trop appuyé. En 72 heures, son clip a reçu près d'1,5 million de pouces à l'envers. Vous savez, des j'aime pas sur YouTube. Les internautes n'ont pas du tout apprécié cette chanson postée à la veille des dernières élections locales à Moscou. Le rappeur, dans les paroles, s'en prend clairement aux opposants qui ont manifesté en masse ces derniers mois contre Poutine. « Je ne vais pas aux manifs, je ne dis pas de la merde », chante-t-il. Ou encore « Je mange un burger à la santé de Sobyanin ». Sobyanin, c'est le maire de Moscou, entièrement dévoué au Kremlin. Il a empêché l'opposition non élue de participer au scrutin. En 3 jours, la vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. 1 400 000 pouces à l'envers, donc, et des commentaires qui accusent le chanteur d'avoir été soudoyé par le pouvoir. Hier, Timati a retiré la vidéo. Il ne voulait blesser personne, promet-il. En tout cas, dimanche, l'opposition a là aussi marqué des points contre Poutine. Les candidats pro-pouvoir ont perdu près d'un tiers de leur siège.
Et ouais, où va se nicher l'opposition quand on ne peut pas s'opposer de la manière la plus conventionnelle? Amélie Perrier, merci beaucoup. Revenez demain.
À demain.
Gigi Kell sur France Inter, After Midnight. Merci à Djoubaka, programmateur du 18-20. Excellent choix.
After midnight, we're gonna let it all hang out.
after midnight. We're gonna chug a lug and shine. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and we're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what is a holy bell. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on laid back. After midnight, we're gonna let it all hang out.
JJ Cale sur France Inter, After Midnight, et After 18h50, et bien c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier.
France Inter.
Un jour dans le monde.
My dream was to come here and work hard for my family.
If you don't try to fix this, we will lose our son for good.
Bruce sings about not letting the hardness of the world stop you from letting the best of you slip away.
Mais qui ose parler sur du Bruce Springsteen? Voilà un film qui revisite les tubes de Springsteen, Corinne Pellissier, un film signé par la réalisatrice Gurin Dersha...
Shada,
voilà, j'y suis. Music of My Life, ça s'appelle. C'est l'histoire d'un jeune Pakistanais dans l'Angleterre des années 80 qui est coincé entre un père tyrannique et une société qu'il rejette. Il va s'en sortir grâce à la musique du boss. Et c'est une histoire vraie, Corinne, c'est celle d'un journaliste britannique qui l'a écrite dans un livre.
Exactement, et la réalisatrice Gurin Dersha eut un véritable coup de cœur pour cette histoire qu'elle a eu envie d'adapter parce que déjà elle-même est très fan de Bruce Springsteen, que les paroles de ses chansons The River, Born to Run, Dancer in the Dark, Promised Land résonnent avec son propre parcours, tiraillé entre ses origines indiennes et ses aspirations. Et puis c'est un sujet que l'on retrouve beaucoup dans son cinéma. Joula comme Beckham parlait déjà d'émancipation, de travailler dur pour accomplir ses rêves. En choisissant un champion de foot ou un chanteur populaire, elle en fait un message universel, la musique ici pour transcender la barrière des origines, de la religion, de l'ennui ou du rejet.
Le fait de m'attacher à une figure populaire me permet de délivrer un message universel. C'est une façon pour moi aussi de raconter mon histoire. Au début des années 80, il y avait beaucoup de racisme en Angleterre. Et comme la plupart des gens dont les parents venaient d'ailleurs, je me suis posé beaucoup de questions sur mon identité, qui j'étais. Et par chance, il y a eu cette campagne de rock contre le racisme. Des groupes comme les Specials ou les Clash qui donnaient des concerts contre le Front National. Le fait de mélanger comme ça les deux cultures, la musique occidentale et celle de mes parents, m'a aidé à savoir qui j'étais et à assumer ma double identité.
Alors Corinne, derrière ce côté feel good movie, c'est un film avec une vraie portée politique, on est dans les années 80, on est dans les années Thatcher, on est dans un climat social donc qui est compliqué, chômage, racisme, insécurité, et au milieu, un personnage donc qui cherche un sens à sa vie.
Voilà, comment devenir écrivain quand on vient de Luton, petite ville frappée par le chômage de masse près de Londres, pas d'argent, pas d'amis, pas de charisme, un père sévère et toute la journée des skinheads qui vous courent après pour vous cracher dessus ou vous tabasser. Grâce à la musique du boss, le héros, Javed, va parvenir à remettre un peu d'espoir dans son quotidien pas très chouette, un peu guimauve sur les bords. Joula comme Beckham était davantage réussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le regard que Gurinder Chadha porte sur son pays à deux époques finalement pas si éloignées.
On n'en a jamais terminé. J'ai décidé de faire ce film en 2017, au moment du vote sur le Brexit. J'étais tellement sous le choc de cette soudaine poussée xénophobe, y compris dans ma ville, à Londres. Du coup, j'ai mis toute ma colère, ma peur et mes angoisses pour l'avenir dans ce film. Mais on n'était qu'en 2017. Je n'avais aucune idée à l'époque de la pertinence que le film aurait aujourd'hui. C'est encore pire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, les événements de Charlottesville. J'espère du coup que Music of My Life inspirera les jeunes. Il faut rester unis et vous battre pour vos rêves.
Voilà, message universel pour un film très musical, vous l'aurez compris, adoubé au passage, s'il vous plaît, par Bruce Springsteen, les fans apprécieront.
Bah forcément, j'imagine. Allez, Music of My Life, signé Gurinder Chadha, pardon, au cinéma cette semaine, et merci à vous Corinne Pellissier.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, hier soir, Donald Trump s'est donc débarrassé de son conseiller à la sécurité intérieure, John Bolton. Une fois de plus, ça renforce l'impression de cacophonie à la Maison-Blanche, mais vous vous dites, peu importe, il a eu raison de le virer. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors, c'est sûr que c'est un peu le bazar autour de Trump. C'est sûr aussi que c'est un peu inquiétant. En 2 ans et demi, John Bolton est donc le 3e conseiller à la sécurité intérieure à faire les frais des humeurs du président. Un 4e devrait être nommé la semaine prochaine. Et ça va plus loin, selon une étude du think tank américain Brookings. 77% des conseillers de la Maison-Blanche ont été changés en 2 ans et demi, dont de nombreux poids lourds. Rappelons les noms de James Mattis, Rex Tillerson, James Comey, hein, vraiment pour n'en citer que quelques-uns. C'est énorme, c'est sans précédent. De nombreux diplomates européens s'en plaignent. Ils soulignent combien la confusion règne dans la prise de décision à Washington. Selon un diplomate français, je cite, « l'équipe autour de Trump est aujourd'hui faible et inexpérimentée ». Eh bien, tout ça est exact, mais ça n'empêche qu'il y a une vraie cohérence dans la décision de mettre John Bolton à la porte. C'est tout simple, et d'ailleurs l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud, nous le disait il y a quelques mois, Bolton n'est pas d'accord avec Trump et il est souvent obligé de dire le contraire de ce qu'il pense. Le fait est là, Bolton n'était pas en phase avec Trump, ni sur la Corée, ni sur l'Iran, ni sur la Russie, etc. En plus, au bout de 2 ans, Donald Trump s'est tout simplement affirmé sur ses sujets de politique étrangère, c'est-à-dire qu'il veut décider lui-même. Résultat, qui le contredit prend la porte. Logique, you're fired.
Alors, mais sur le fond des dossiers, Jean-Marc, il n'y a pas un risque à se priver d'un homme expérimenté comme Bolton ?
Je vais vous dire, sur le fond, ce qui caractérise Bolton, c'est d'être un faucon, c'est-à-dire un héritier de l'école néoconservatrice américaine, cette école qui, avec les Rumsfeld et Cheney, a poussé George Bush Jr. à l'intervention militaire en Irak il y a un peu plus de 15 ans, avec les effets en chaîne que l'on sait, la cata. Pour le dire autrement, Bolton, c'est un partisan de la grandeur militaire américaine, convaincu du rôle messianique des États-Unis. Un va-t-en-guerre. Avec lui, Washington bombarderait l'Iran, peut-être même la Russie, et interviendrait militairement au Venezuela. Selon une indiscrétion du New York Times, Trump lui-même l'a d'ailleurs admis en ces termes « Si John décidait de tout, nous serions engagés dans 4 guerres ». À l'inverse, le président américain cherche à retirer les troupes, de partout si possible, ramener les gars à la maison. Donald Trump aime donner l'image de la force, mais il n'aime pas recourir à la force. Il a plein de défauts, il est imprévisible, on peut lui reprocher plein de choses, mais ce n'est pas un président va-t-en-guerre, en tout cas jusqu'à présent. Il s'est toujours retenu d'appuyer sur le bouton, le meilleur exemple étant contre l'Iran dans le golfe Persique l'été dernier. Soit dit en passant, on peut d'ailleurs observer que dans l'histoire contemporaine américaine, les présidents issus du parti démocrate sont au moins autant bellicistes que les présidents républicains. Je ferme la parenthèse. On se résume, vu les dégâts provoqués par les interventions militaires américaines, en particulier au Proche et au Moyen-Orient, on ne va pas se plaindre que Trump ait viré Bolton.
Alors cela dit, ça n'empêche, le président américain manque de conseillers expérimentés aujourd'hui à la Maison-Blanche.
C'est vrai que c'est un souci. Entre nous soit dit, c'est surtout un souci pour les autres diplomates des autres pays étrangers qui sont un peu déboussolés. On peut à ce stade émettre une hypothèse. C'est peut-être la fin d'une époque, c'est-à-dire celle des grandes visions conceptuelles du monde, quelle qu'en soit la nature, unilatérale, multilatérale, bipolaire, multipolaire, froid, chaud, gauche, droite, etc. Les visions héritées de gens comme Kissinger, Brzezinski, les Bolton, des gens qui identifient des longues traînes, des évolutions structurelles, qui prétendent regarder le monde comme un ensemble. Trump, lui, il voit le monde comme une succession d'instants présents où il faut être réactif, agir à l'instinct, changer de position, être plastique, plus pragmatique, pas dogmatique, passer des deals, c'est son grand mot, des deals conjoncturels, jamais gravés dans le marbre. Après tout, il a peut-être raison, hein, puisqu'on est dans un monde qui évolue à vitesse grand V, où les puissances sont nombreuses, variées, où les réseaux sociaux imposent leur dictature de l'immédiateté. Alors il a peut-être raison. Je dis ça, j'en suis conscient, c'est un peu histoire de se rassurer, puisque Trump, dans un mouvement d'humeur, il peut toujours appuyer sur le mauvais bouton.
Allez, Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Power et puis le téléphone sonne. Ne bougez pas, à tout de suite.